Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la bédéaste Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazué et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute.
Est-ce que toi, t'as un plat ou un lieu qui est vraiment consolatoire?
La blanquette de veau. C'est un truc spécial sur moi, je pense, probablement parce que, encore une fois, c'est marrant, hein, mais ma tante faisait la meilleure, évidemment. Mais du coup, c'est accompagné de cette émotion-là, je pense, hein, mais je crois aussi que j'adore ce plat et que j'adore. Alors, moi, je le mange vraiment avec le riz. Hein. Je sais qu'il paraît que les vrais, ils ne mangent pas avec le riz.
C'est bon avec le riz si tu mets la sauce dedans.
Ouais, moi, je fais des puits, quoi. Je fais des puits et je bois par gorgée la sauce, quoi. Mais c'est vraiment une échappée très spéciale.
Dans le ventre de Caroline de
Menger. Dans le ventre de.
Dans le ventre de Caroline de Menger.
Dans le ventre de.
Dans le ventre de Caroline de Menger.
Il est midi et j'attends mon rancard pour déjeuner. Je suis installée bien tranquillement avec mon petit lassis à la mangue, mon péché mignon, qui est très bon, je dois dire. Mon invitée, c'est Caroline de Maigret, productrice. J'ai rencontré Caroline il y a quasiment 20 ans, à l'époque où j'avais une grosse frange et un groupe de rock. Depuis, nous nous sommes un peu perdus de vue, mais nous nous sommes retrouvés récemment autour de la bouffe et j'ai découvert qu'en plus d'avoir des goûts très sûrs en musique, Caroline adorait bien manger. Je lui ai donné rendez-vous chez Annapurna, le plus vieux restaurant indien de France, dans le 8e arrondissement de Paris. J'ai très faim, et ça tombe bien, je la vois qui arrive.
Déjà, j'ai pris un petit lassis à la mangue.
J'ai jamais été fan de ça.
T'aimes pas les boissons un peu au lait?
Non, pas du tout.
Poulet tikka, tu m'as dit que t'aimais bien.
Ouais, tikka masala, j'adore. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime bien prendre... Enfin, si t'es d'accord, qu'on se prenne un palak paneer, des petits épinards, des petits pois...
Bah, on peut faire comme tu veux. Moi, franchement, j'ai pas... En fait, je me disais que le menu était pas mal, c'est qu'on pouvait un peu prendre de tout ça, tu vois, parce qu'au final, t'as un plat, deux légumes. Après, ça veut dire qu'on a des desserts, mais... Sans dessert, il paraît que le kulfi, c'est très bon.
Ouais, c'est bon le kulfi.
Ouais, il paraît qu'il est très bon.
Ah bon, bah super. Ah, ok, moi j'adore.
Tu le prononces mieux que moi parce que moi j'ai dit kulfi.
Je sais pas, moi je dis kulfi, mais je.
C'est plus chic.
Ouais, je sais pas, moi tu. Mais très bien.
Et du point de chinane en plus quand même.
Bah évidemment.
Parce qu'apparemment c'est eux qui l'ont inventé.
Ah bon?
Bah on va demander au monsieur du coup qui arrive. J'étais en train de dire que j'avais lu que c'était ici qu'on avait inventé le cheese naan.
Absolument, c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire?
Alors l'histoire, tout simplement, le fondateur de la maison, lorsqu'il a voulu installer le premier restaurant indien de Paris et donc de France, s'est dit que pour faciliter l'accès à cette cuisine indienne en France, il fallait un peu franciser la chose. Et donc il a eu l'intelligence et l'idée d'incorporer un produit très français dans le pain.
La vache kiri.
Donc, de la vache kiri, exactement. Donc, on met deux petites pièces de vache kiri à l'intérieur d'un naan nature avant de l'aplatir et de le glisser dans le tandoor. Et ça a permis donc la création de ce fameux best-seller maintenant mondial. Et ça a été inventé ici, effectivement, en 1967 à l'Annapurna.
On va devoir en commander, du coup, Caroline.
Exactement.
Est-ce que tu vas souvent au restaurant?
Ouais, j'y vais pas mal. Ouais, j'adore ça. D'abord... Je suis une grosse bouffeuse, mais pas une grande cuisinière. Et en plus, ouais, j'aime découvrir la bouffe de gens différents, quoi.
Et quand je suis arrivée ici, ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'impression que je suis souvent dans des restos qui se ressemblent beaucoup, où les gens qui sont autour de moi me ressemblent, tu vois, dans le 11e, dans le 20e, avec un peu les mêmes codes. Et venir ici, c'est quand même un resto, genre de resto dans le 8e où je vais pas souvent. Je me dis, ça me fait la même sensation que quand t'es gosse et que tu vas au resto pas souvent et que c'est un peu la fête, tu vois.
Ah ouais, mais vraiment, mais c'est vrai qu'on peut le décrire un petit peu. La déco est super, quoi. Il y a des ornements. Bah écoute, là, on est quand même face à une peau de panthère accrochée au mur sur des tissus, des tapisseries cachemire avec des chaises basses en bois. C'est incroyable, quoi.
Tu penses que c'est des vraies panthères?
Ouais, tu sais quoi, ouais. Ouais. Mais bon. Après, il est là depuis, qu'est-ce qu'il a dit, les années 50 ?
Depuis, les années début des années 70, 67, je crois.
Ouais, il savait pas.
Est-ce que tu étais une enfant qui aimait bien manger ?
Ouais, je crois que depuis toujours, ça a été mon meilleur ami, la bouffe. Que ça soit joyeux ou triste, c'est toujours dans la bouffe que je me retrouve. Avec mon argent de poche, en fait, j'allais bouffer des nems tout le temps. J'ai une obsession nems quand j'étais adolescente. J'habitais, tu vois, à Villiers, à Paris. Et il y avait rue de Lévy, une vietnamienne qui avait un stand de produits vietnamiens et des nems à tomber par terre. Et je, voilà, c'était mon goûter.
T'allais pas acheter des bonbons, t'allais acheter des nems, quoi.
Ouais, j'achetais des nems. Ouais.
Et chez toi, on se retrouvait à table. Enfin, ça se passait comment autour de la table?
Alors, on était 6, on était 4 enfants et mes parents. Bah, tu sais, moi, je suis née dans les années milieu 70, donc c'était de la bouffe très industrielle. Hein. C'était beaucoup Findus, William Sorin. C'était les boîtes et les surgelés, hein, vachement.
Les plats qui arrivent déjà. Je suis pas tombée sur beaucoup de kiri, moi.
Non, moi non plus. C'est tout l'art d'aller chercher. Du coup, t'es obligée d'aller passer au morceau d'après pour être sûre que là, il va bien le mettre. Regarde, là, j'ai un morceau de folie. Mais t'entends, mais crispy. C'est rare, hein.
T'étais quel genre d'enfant?
Écoute, j'étais la 3e sur 4, donc on m'a vraiment foutu la paix. En plus, j'étais après une fille et après un garçon. Donc,
ils avaient... Il n'y avait pas de pression.
Non,
ils avaient... j'étais la 4e fille, ils étaient trop vénères.
Ah ouais. Non, ouais, c'est ça. Non, moi, ils avaient fait le tour, si tu veux, et c'était comblé. Donc, ils m'ont vraiment foutu la paix. Ça ne les intéressait plus que je marche ou que je dise mon premier mot. Bah, tu vois. Et du coup, j'ai grandi d'une façon... Je crois que ça m'a rendue très indépendante et très assez libre, quoi.
Ils te laissaient libre de faire ce que tu avais envie de faire quand tu étais ado, jeune adulte?
Non, pas du tout, mais ils m'ont donné cette ouverture d'esprit où j'ai pu me l'octroyer moi-même.
Tu as eu envie de partir assez tôt?
À 18 ans.
Pour faire quoi?
En fait, j'ai commencé des études à la Sorbonne, de lettres modernes, pour justement partir et devenir indépendante. On m'a proposé d'être mannequin. J'ai fait le pas et je suis partie à New York tout de suite, en fait. Et du coup, j'ai pu vivre ma vie de jeune femme seule et indépendante et libre là-bas.
Et quand t'as proposé d'être mannequin, tu t'es dit oui tout de suite?
Non, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait spécialement, la mode. J'ai dit non plusieurs fois, hein, d'abord. Et puis je me suis dit que ça pouvait être marrant et j'ai essayé et j'ai trouvé hyper excitant, en fait... tous les gens qui bossaient dedans, qui venaient de plein de pays différents, qui avec des envies de créer différentes. Enfin voilà, tout le monde venait avec des bagages tellement forts et intéressants que c'était un tel nouveau prisme pour moi qui avait été élevé, tu vois, à Paris d'une façon très classique. Donc c'était hyper excitant.
T'étais jeune, enfin comme souvent quand on commence à être mannequin. Et est-ce que ça a changé ton rapport au corps?
Ouais. je me suis rendu compte que jusque-là, je m'étais regardée dans le miroir que pour voir si j'avais du dentifrice. À l'époque, on n'avait pas d'iPhone, etc. On n'avait même pas de téléphone portable. Donc il y avait quand même un culte de l'image qui était vraiment différent. Et puis moi, j'étais pas très intéressée par ça. Mais ouais, d'un seul coup, on m'a dit... j'allais dans les castings, on me disait « son nez est trop grand ».
Si je regarde ton nez, non, ça va, il est très bien.
Il est très grand, en effet, je ne savais pas. Donc je suis rentrée, tu vois, je me suis mise dans le miroir, je fais « Ah putain, il est vraiment énorme mon nez et tout, mais c'est cool, ça va, tu vois. » Donc oui, ils ont voulu m'ont proposé de faire une rhinoplastie, de faire la poitrine aussi, en me disant que je bosserais plus et tout, mais ça me paraissait complètement absurde. Moi, j'étais j'avais la chance en fait d'être assez mature et du coup d'avoir cette distance et de faire, enfin c'est complètement fou de demander ça pour faire des photos. Je grossissais pas du tout. Je pouvais manger ce que je voulais, je grossissais pas, donc j'ai pas non plus été trop touchée par cette envie de filles longilines, etc. Machin, tu vois, ou avec des filles où, qui mangeaient une pomme et elles prenaient 100 grammes, les pauvres, enfin tu vois.
En gros, on disait qu'il faudrait que tu perdes tant de poids, que tu fasses des régimes, etc. Quoi.
Ah oui, on me disait qu'il fallait perdre encore plus. Encore une fois, j'avais la distance de savoir que j'étais pas grosse. Du coup, là, c'était plus compliqué. Je me suis dit, bon, ben, en fait, maintenant, il va falloir que j'opte pour une autre stratégie qui est de me prendre comme je suis, c'est-à-dire de faire la fille nature, souriante, machin. Et du coup, en fait, t'es un peu moins mode. Donc, j'ai fait des boulots qui étaient plus commerciaux. Où ils avaient envie de filles qui étaient, tu vois, plus vivantes, enfin plus...
Plus naturelles, quoi. Aussi, des filles auxquelles on peut s'identifier.
Ouais. Tu revais de l'aubergine ou pas?
Ouais.
Donc New York, tu es assez jeune, à 20 ans, quoi, en gros, de tes 20 à 30 ans. C'était comment la vie là-bas, quand tu débarques?
C'est toute l'époque, Beastie Boys, tout ça, la musique. C'est dans tous les sens à New York. Il y a plein de zik que j'adore et dont je suis fan. Et en fait, ma vie, c'est ça, c'est... entre le mannequinat et tout, et les concerts de rock.
Parce que tu dis que la bouffe, ça a toujours été un lieu consolatoire et de fête et de tristesse. Et la musique un peu, j'ai l'impression aussi. C'est un peu le même statut, non?
Oui, la musique, c'est l'art qui me donne le plus d'émotions immédiates, quoi. C'est très similaire à la bouffe dans le sens où je sais quel plat, quelle musique va me mettre dans quel état. Il y a des trucs où je sais que voilà, cette musique-là va appuyer ma mélancolie et je vais avoir encore plus mal, et c'est trop bien d'avoir encore plus mal. D'autres qui vont être plus solaires et la bouffe de la même manière.
Et au bout d'un moment, tu rentres à Paris?
Ouais, bah au bout d'un moment, en fait, je deviens femme et là, j'ai envie d'un petit peu prendre, si tu veux, d'être maître ou maîtresse de mes choix, de plus dépendre du bon vouloir des autres, parce que c'est quand même très, très frustrant. Et donc, je rentre à Paris avec l'envie de faire un label de musique. Je rencontre Yarol Poupeau, qui lui aussi a envie de monter un label et de produire des jeunes artistes. Donc on monte le label ensemble, on tombe amoureux ensuite. Mais d'abord on monte le label, et c'est là où je t'ai rencontré.
Révélation.
Mais ouais, révélation, c'est-à-dire qu'on monte le label, et en même temps... On nous dit, mais venez voir, là, il y a un bar avec plein de gamins et tout, le bar 3, le truc, le machin. Il se passe un truc en ce moment à Paris et en France, de toute une énergie un peu rock garage. Et je vais dans un concert, dans un bar, un premier étage d'un bar à Belleville, je crois, un truc comme ça. Et là, t'es là et tu fais de la batterie avec les plasticines.
Je pense, alors je sais pas si c'était au premier, c'est possible que ce soit celui-là parce que c'était au Renitas, c'était un bar qui était près de la Flèche d'Or et on n'était que trois à l'époque et on avait je pense cinq chansons et du coup on les a jouées plusieurs fois et il y avait Virginie Despentes, toi, Philippe Manœuvre. En plus nous on était quand même banlieusardes et tout, tu vois, enfin on était vraiment hyper des naïfs quand on était des gros bébés, on avait 16 ans au tout début.
Ouais, mais vous étiez naïve, mais à la fois, il y avait une certaine insolence, ou en tout cas audace, qui émanait de vous. Il y avait un truc de je m'en foutisme, qui était très sexy. Ouais, parce qu'en fait, c'est souvent ça qui est sexy, c'est celui qui dit « aime-moi si tu veux, mais moi je m'en fous », enfin tu vois.
C'est la première fois aussi que tu as une vie de famille. Enfin, tu tombes amoureuse, t'emménages avec ton mec, t'as un enfant. Est-ce que ça change quelque chose à ton alimentation?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut manger sain, en fait.
Il faut remplir le frigo aussi, enfin, d'un point de vue très... au sens propre et figuré, quoi.
Non, mais ça n'a plus rien à voir. Le travail, c'est pas la même chose. En effet, quand j'ai l'enfant, bah là, il faut bosser plus, enfin, différemment. C'est-à-dire que... faut payer le loyer, tout ça, quoi. Donc, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire avec Bonus Tracks, tu vois. Pour subvenir à tout. Et donc, je suis assez naturellement revenue dans la mode. On m'a proposé de faire un camion radio, le magazine Jalouse, et me mettre à la sortie des défilés. Et j'avais des gens qui montaient dedans, des designers, des réalisateurs, des comédiens, tout ça. Et j'ai eu la chance que Karl Lagerfeld accepte de monter dans ce camion. Il monte. On s'est beaucoup amusé dans cette conversation. Il parlait de sa mère, de la musique, de tout ça. Et cinq jours après, son équipe m'a proposé de faire le défilé Chanel. Tu vois, donc c'était marrant parce que j'avais 39 ans.
Et contrairement à maintenant, on voyait pas beaucoup de femmes de 39 ans défiler, quoi.
Ah ouais, non, à l'époque, pas du tout. Donc c'était vraiment étonnant. Et puis en plus, les gens ont tous eu cette même envie et idée, etc. Puis j'ai commencé à refaire du coup des campagnes pour Prada, Louis Vuitton, machin. Enfin, c'était marrant, quoi. Tout a recommencé.
T'es devenue très connue à ce moment-là, on peut dire.
Très connue, je sais pas, mais en tout cas, j'ai...
C'est dur de dire ça de soi-même, mais...
Non, parce que je pense pas que ce soit le mot, mais en tout cas, dans le métier...
Reconnue, quoi.
Reconnue, ouais. Voilà, exactement.
Et t'as fait deux bouquins qui ont tous les deux bien marché. Ouais. Un sur les Parisiennes et l'autre sur comment bien vieillir, en gros. Est-ce que c'est ça ?
C'est pas comment bien vieillir, c'est comment faire... Tu vieillis et c'est comme ça.
En fait, quand tu vieillis bien, c'est aussi quand tu acceptes de vieillir, quoi, tout simplement.
Oui, je sais pas si c'est pas vraiment vieillir bien le truc. C'est en fait le jour où tu réalises, mais toi tu l'as pas encore, mais c'est le jour où en fait tu réalises par des petites phrases et des petites actions qu'on t'a jeté du club des jeunes sans que toi tu le demandes. Mmh. En fait, tu vois, et ce réveil il est assez brutal. J'ai fait une vraie crise de la quarantaine en fait. Je me suis pris en pleine gueule ce truc et puis voilà, puis après tu le comprends, tu le digères et puis ça va très bien et puis de toute façon en plus, de toute façon c'est la vie. Hein, c'est
tout le monde passe par là a priori.
on vieillit, on meurt, voilà. Donc, mais c'est normal, c'est plein de stades dans la vie où tu passes en fait à chaque fois à la personne d'après. Enfin, c'est comme ça que moi j'appelle ça, quoi. Je passe à la femme d'après. Et donc tous les quoi, les 8-10 ans, je fais... un bon burn-out, une bonne crise comme ça.
Et ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que tu restes enfermé et tu manges rien et tu bois du noir, quoi ?
Le premier, donc, il y a 14 ans, un truc comme ça. Carrément, je pouvais même pas marcher. C'est-à-dire que mon corps a arrêté vraiment de fonctionner, etc. Mais ça, c'est parce que j'avais vraiment pas bossé sur moi encore et il fallait que je comprenne pas mal de trucs de mon passé et que... Voilà, que j'avance. Et voilà, en bossant sur soi, en je sais pas quoi, j'ai tout essayé. Je faisais du sport, du yoga, du machin. J'ai tout essayé pour arrêter ces crises d'angoisse permanentes. Et puis un jour, ça allait mieux. La crise de la quarantaine, c'était... tu travailles un jour et t'as l'impression que c'est la dernière fois pour tout, en fait. La dernière fois que tu peux changer de vie, la dernière fois que tu vas être bonne, je sais pas, tu vois, plein de trucs complètement dingo que ton mental te persuade que c'est ça, quoi. La grande angoisse, quoi, le grand vide.
Mais comment tu fais pour que ça passe, ça pour, quand tu dis la crise de la quarantaine, comment t'as... Est-ce que t'as des petites combines consolatoires ?
Bah, je sais pas, bah, justement, on a écrit ce bouquin. Alors, je crois que c'est en l'écrivant que j'ai déclenché ça. J'ai fait genre merde, putain. Ça y est. Non, je pense que juste que tu bosses sur toi et tu comprends que tout ne tournait pas autour de toi. Tu vois ? Et que c'est comme ça et qu'il n'y a rien de grave. En fait, t'as des moments de grande clairvoyance. C'est ce que j'ai eu en tout cas, où d'un seul coup, tu fais putain, je ne suis que poussière. Voilà. Et vraiment, quand j'étais très très mal, je marchais dans la rue et je voyais tout le monde qui vivait sa vie et qui traçait et qui machin. Et j'étais là, genre, qu'est-ce que je suis en train de faire de me soucier de choses alors que tout le monde s'en fout et qu'on s'en fout et que je devrais. Enfin, tu vois. Mais voilà, c'est des moments un peu.
C'est plutôt sain d'avoir ce genre de moment, je pense, de questionnement dans sa vie. Ça doit pas être très agréable, mais c'est.
Ah non, mais à chaque fois, ce que je dis, c'est que c'était très dur à vivre parce que c'était des grands moments d'angoisse. Pas facile, mais que je les revivrais avec plaisir vu après, l'étape d'après, quoi. Que comme t'es bien et mieux toujours après, à chaque fois, quoi.
Et il paraît que vous faites un très bon... On dit Kulfi ou Kulfi ?
Kulfi.
Kulfi.
Ça veut dire glace en indien.
Ah, tout simplement.
Moi, j'adore ça, le Kulfi.
J'imagine que tu dois être invité aussi à pas mal de dîners et de repas peut-être un peu plus mondains. Est-ce que les gens mangent beaucoup, enfin mangent vraiment lors de ce genre d'événement ?
Écoute, quand c'est bon, les gens mangent, hein. Vraiment. Ouais. En tout cas, moi, je mange. Je me souviens une fois, un agent américain d'ailleurs, qui m'avait dit « Essaye de manger chez toi avant. » Parce que j'arrivais, je vidais les buffets, les trucs. Tu sais, j'étais trop contente, quoi, de... Pas du tout parce que j'étais affamée, juste parce que quand la bouffe est bonne, t'as envie de tout goûter, quoi.
Donc pour lui, c'était pas chic, quoi.
Non, c'est pas la classe du tout. Surtout quand t'es pas, quand t'es celle où on t'a dit, ouais, ce serait bien qu'elle fasse un peu attention, tu vois.
Moi, je trouve ça très, très chic. Je trouve ça très rock'n'roll.
Bah, moi aussi, hein, tout va bien.
Je vous laisse donc sur cette conclusion. Continuez à manger comme et autant que vous le voulez. C'est très chic. Pour suivre tout ce que fait Caroline, je vous recommande de faire un tour sur sa page Instagram, Caroline de Maigret. Et pour manger les légendaires nanes d'Annapurna, c'est au 32 rue de Berry, dans le 8e arrondissement de Paris. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
T'as aussi fait une petite participation au cinéma, où tu fais une serveuse dans Sex and the City. Mais attends, mais tu sais que moi, j'étais trop fan de cette série. Dès que je me sépare d'un mec, je regarde toutes les saisons. Et pourquoi ?
T'es vachement bien, dedans ?
Tu te fiches de moi ? Attends, elle est en train de vous dire que je suis vachement bien, alors que ça dure une seconde. J'amène Sarah Jessica Parker à sa table. Mais non, cette histoire, elle est folle. C'est la casting directrice française qui me dit « Ouais, il y a Sex and the City qui arrive pour tourner son dernier épisode en France, machin. » Le Réal aimerait beaucoup t'avoir dedans. Donc moi, je suis très flattée, je suis « Ah, génial !» et tout. Et puis, la veille, j'ai toujours pas de scénar, je suis inquiète, parce que moi, je suis pas du tout actrice, tu vois. Donc je me dis « Mais je peux pas apprendre comme ça sur le pouce, j'ai pas ce talent-là. » Donc je commence un peu à secouer les puces de tout le monde. Tout le monde me dit « T'inquiète, t'inquiète, machin. » J'arrive le matin sur le tournage et là, je vais vers le truc des figurants et on me fait « Ah non, 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 pas du tout, votre loge est là ». Et c'était la loge de Sarah Jessica Parker, donc on me met dans la même loge qu'elle, etc. Donc là, je commence vraiment à flipper. Et puis, pareil, je commence un petit peu à envoyer des messages à la prod et tout, en faisant genre « Les gars, tu vois, on va tourner bientôt, ça commence à être vraiment chaud ».
Mais tu savais que tu devais jouer une serveuse ou pas du tout ?
Pas du tout, moi on m'a dit « T'as un rôle dans Sex and the City, quoi ». Et là, j'arrive et le Réal arrive, me prend dans ses bras et me dit « Oh, je suis tellement heureux que tu aies accepté, machin, d'être dans cet épisode et tout. Oui, oui, ok, super, bon. » Il me dit « Bon, alors là, tu vas accueillir Sarah Jessica Parker et tu vas l'amener à la table de Carole Bouquet, machin. » Je fais « Ok, génial. » Donc, je le fais. Et au moment où je finis mon action, tout le monde applaudit et fait « That's a wrap !» Ce qui veut dire fin pour Caroline, quoi. Enfin, « That's a wrap », c'est-à-dire fin de la scène, mais de la séquence, mais surtout... bravo pour Caroline, ils disent ensuite. Et là, j'apprends que j'ai donc fini ma journée. Et c'est l'humiliation totale, quoi, tu vois. C'est, parce que je pensais que j'avais un rôle en Sex and the City, quoi.
Bah, t'as quand même un petit rôle, mais tu pensais que t'avais un plus gros rôle.
Si tu regardes bien le truc, je suis au générique. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui passent devant ma gueule. Oui, j'emmène Sarah Jessica Parker. C'est vraiment. Mais je suis même pas sûre que ça soit du haut figurant. Tu sais, t'as des détails différents dans les figurants.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette anecdote, en tout cas.
Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.